France Info.
C'est le secteur qui monte en matière de criminalité, la cybercriminalité. Le ministère de l'économie lance aujourd'hui une grande campagne de sensibilisation contre ces méfaits. Et pour en parler avec nous, Guillaume Poupard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nicolas Arpagian, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense. Vous êtes auteur d'un Que sais-je sur le sujet, la cybersécurité. C'est donc aux éditions du PUF. Et puis il y a même eu une deuxième édition il y a quelques mois, parce qu'évidemment.
Troisième même.
Troisième, ça change tout le temps, la cybercriminalité. Il faut se mettre à jour. Enfin, Jérôme Colombin, je ne vous présente
bonjour,
pas.
Bonjour Olivier.
Monsieur Nouvelle Technologie de France Info. Jérôme, c'est quoi la cybercriminalité? La cybercriminalité.
C'est pas facile à dire.
Aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est pas facile à nous dire non plus.
2400 événements de cybersécurité signalés en 2017, près de 800 incidents avérés, dont 20 incidents majeurs et 3 d'ampleur publique, comme la cyberattaque contre le mouvement En Marche en pleine campagne électorale ou le rançongiciel WannaCry en mai 2017. Face à cela, les cyberpompiers de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de cybersécurité...
C'est pas facile
vous...
à dire.
Non, c'est vrai, que vous venez de présenter, sont intervenus une douzaine de fois pour limiter les dégâts, remettre les systèmes en route, etc. Donc ça, ce sont les chiffres de l'ANSSI pour l'an dernier. On n'a pas encore les chiffres de 2018, mais ce qu'on sait déjà, c'est que la cybermenace est de plus en plus multiforme, avec des motivations financières, escroquerie, revente d'informations confidentielles sur le darknet, des motivations économiques, cyberespionnage dans les entreprises, ou même... politique, avec des tentatives de déstabilisation. Tout le monde est concerné, les particuliers, les entreprises, notamment les plus petites qui sont les moins bien protégées parce que les consignes en matière de sauvegarde préventive ou de politique de sécurité ne sont pas toujours respectées.
Et Guillaume Poupard, l'ampleur de la cybercriminalité, elle vous inquiète globalement ?
Elle m'inquiète évidemment puisqu'elle est en forte croissance, aussi bien en termes de quantité, de plus en plus d'attaques, des attaquants qui sont de plus en plus forts, ils progressent très très vite, et surtout des attaquants
plus
qui sont extrêmement variés. Pas plus vite que nous, on essaie, je pense qu'on a le bon rythme, mais fondamentalement la difficulté c'est que ce qui peut être touché c'est l'ensemble des domaines numériques. Donc le numérique à la maison, dans notre vie personnelle, le numérique dans notre entreprise, dans la vie économique du pays, le numérique également au niveau des États, vous le savez, tout se numérise aujourd'hui. Et là où la transformation numérique apporte beaucoup de bonnes choses, eh bien évidemment il y a une face noire qui va être exploitée par tous les malfaisants de la planète, des petits groupes criminels, voire des États dans certains cas. Et c'est face à l'ensemble de ces risques-là qu'il faut être capable de se préparer. Et c'est notre rôle aujourd'hui.
Nicolas Arpagian, ce n'est pas juste anecdotique la cybercriminalité. Aujourd'hui, on est face à un fléau de grande ampleur.
Alors pourquoi ? Parce qu'elle s'attaque à tout ce qui est numérisé, c'est-à-dire les informations des entreprises, des administrations, des particuliers. On voit, l'affaire Facebook le montre, que les données personnelles ont également une grande valeur. Elles peuvent être monétisées, elles peuvent être exploitées à d'autres opérations malveillantes. Et on voit que c'est effectivement un spectre très large. En fait, la criminalité suit le même phénomène que le reste de l'économie, le reste des sociétés qui se numérisent. En fait, elle va faire en sorte d'optimiser sa capacité en touchant un plus grand nombre de gens sur une zone géographique plus vaste, avec, pense-t-elle, une relative ou une impunité facilitée par les moyens techniques de dissimulation qui limitent les investigations et les capacités d'arrestation des attaquants.
Pendant longtemps, on pensait que ça concernait un phénomène de piratage, de hackers, avec des gens qui faisaient ça pour rien. Aujourd'hui, ça rapporte la cybercriminalité, Jérôme ?
Oui, puis c'est de plus en plus organisé et professionnalisé. Pas plus tard que ce week-end, on me rapportait des faits selon lesquels, dans un pays d'Europe de l'Est, on avait démantelé une espèce de cellule composée de plusieurs centaines de personnes occupées à essayer de pirater une banque française en particulier qu'ils étaient en train de viser. C'est de plus en plus dans des proportions incroyables parce que ça rapporte de l'argent.
On peut parler véritablement de mafia, Guillaume Poupard ?
Les mafias s'y intéressent très clairement, des gens qui, jusque-là, le crime organisé en général, qui faisaient des différents trafics que l'on peut connaître. Aujourd'hui, le numérique, c'est un eldorado pour eux, ça rapporte énormément, ça a un effet mondial, comme le disait Nicolas.
Quand vous dites ça rapporte énormément, on parle de quoi ? De millions ? De
milliards.
Centaines de millions ?
On parle de milliards. C'est un chiffre qui est très très dur à estimer, bien évidemment, mais une borne inférieure, j'ai envie de dire, c'est vraiment des milliards. Et on voit des groupes aujourd'hui, et c'est pas forcément des groupes extrêmement gros en termes de nombre de personnes, mais avec quelques dizaines d'experts, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et on en voit qui réussissent à récupérer des sommes absolument colossales qui se comptent en centaines de millions. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ça m'inquiète. On est un peu face à des start-up qui réussissent dans le domaine
des
du crime.
Des start-up de la mafia, quoi.
C'est des start-up du crime, très clairement, qui sont en train de se développer aussi vite que d'autres start-up que l'on peut voir dans le domaine du numérique et qu'il va falloir arrêter. Autrement, les conséquences vont être absolument dramatiques.
Nicolas Arpajon, on sait quel est le portrait robot de ces nouvelles mafias du
Alors, net. On a passé très nettement la période des années 80 où il y avait le fait d'armes, la prouesse technique, la performance, le beau geste. Voilà. Enfin, entre guillemets, parce que ça restait tout de même des infractions. Et on est maintenant, effectivement, dans une activité crapuleuse, dans une activité qui peut être idéologique, politique, mais surtout également avec un phénomène d'industrialisation. En clair, celui qui va élaborer le mode opératoire d'attaque n'est pas forcément celui qui va le diligenter, n'est pas forcément celui qui va le commanditer et n'est pas celui qui va éventuellement exploiter à terme les données pour des opérations ultérieures. Donc ce qui fait qu'on est dans une criminalité qui va se tayloriser en quelque sorte et donc qui va être compliqué pour les enquêteurs de refaire des chaînes de commandement, des chaînes de responsabilité parce que les uns n'auront aucun contact, n'auront aucune connaissance des autres puisqu'il y a des plateformes, des places de marché où on peut mettre à disposition en vente, gratuitement ou par échange, un certain nombre, par exemple, de logiciels malveillants ou de fruits de ces vols.
Bon, alors maintenant qu'on a bien fait peur à tous les auditeurs
On les a éclairés.
Jérôme, comment on peut faire pour se protéger? Et parlons des gens qui nous écoutent dans leur voiture, qui sont sur leur smartphone, sur leur ordinateur. Très concrètement, quelles sont les bonnes pratiques?
Eh bien, elles sont nombreuses et en même temps, parfois très simples. Tout simplement, le mot de passe. Il y a encore un nombre incroyable de gens qui utilisent des mots de passe faibles. 1, 2, 3, 4, 5, le prénom de mon chien.
Ouais, mais attendez, je vous arrête, Jérôme, parce que ces histoires de mots de passe, mais ça empoisonne la vie de tout le monde.
Oui.
On a des dictionnaires remplis avec les mots de passe de tous les codes, alors, de tous les magasins, de tous les sites sur lesquels on est.
Si vous avez ça, c'est déjà bien. Ça veut dire que vous avez plein de mots de passe différents, parce que le gros problème aussi, c'est d'utiliser le même mot de passe partout. Mais il y a des outils pour nous faciliter la vie aujourd'hui. Vous avez des gestionnaires de mots de passe, des petits logiciels que vous installez, des coffres-forts dans lesquels vous mettez tous vos mots de passe. Vous n'avez même pas besoin de les retenir, vous retenez juste la clé d'entrée, la clé pour ouvrir le coffre, c'est-à-dire un seul mot de passe, et ça va quand même bien vous faciliter la vie. Mais c'est impératif de ne pas choisir des mots de passe trop faibles.
Bon, c'est impératif. Autre conseil, Guillaume Poupard?
Alors déjà, une remarque générale, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, c'est le début du mois européen de la cybersécurité. Le but de ce mois, il est clairement de porter le message, de prendre le temps de le faire auprès de l'ensemble des utilisateurs du numérique, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui, très clairement, de manière à leur dire, écoutez, le numérique c'est formidable, il ne faut pas paniquer, mais on a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre.
Vous ne voulez pas nous donner de conseils précis, mais on va vous reposer la question. Vous restez avec nous, 13h19, on se retrouve dans deux petites minutes.
Papa, pourquoi tu travailles tout le temps?
Parce que je viens de lancer mon entreprise.
Après, tu travailleras moins.
Je sais pas, mais des bisous, t'en auras toujours autant.
Quand on est entrepreneur, start-upper, on veut aller de l'avant, faire grandir son entreprise. Et on oublie parfois de se protéger en cas d'arrêt de travail, de maladie grave, d'accident. Avec le contrat de prévoyance Cap Entrepreneur AJP, vous pérennisez votre activité et vous maintenez votre niveau de vie. La souscription du contrat Cap Entrepreneur AJP s'effectue chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur AJP.com. AJP, partenaire d'AXA.
Direct, débat, décryptage. Midi 14h, l'info en 3D, Olivier Delagarde.
La suite de notre débat sur la cybercriminalité et comment s'en protéger, c'est donc dans deux petites minutes, juste après l'info à 13h20. L'info, c'est avec Emmanuel Grabet.
Le rapport avait été commandé par les Nations Unies après le sommet de Paris sur le climat en 2015. C'est aujourd'hui que le GIEC rend sa copie. Il le soumet pour approbation aux délégués des États réunis en Corée du Sud. Dans ce rapport, les experts pour le climat listent les conséquences d'une augmentation de 1,5 degré de la température d'ici la fin du siècle et les quelques options qui nous restent pour rester en dessous de ce seuil. Le départ en quelques jours d'un deuxième cadre d'Air France. Cette fois, c'est le DRH qui s'en va. Un départ interprété comme un geste envers les syndicats qui lui étaient hostiles. Mais l'intersyndicale a déjà réagi. Ce n'est pas une question d'homme, dit-elle. Nous voulons des solutions. L'intersyndicale qui doit rencontrer aujourd'hui le nouveau patron de la compagnie, Ben Smith, pour parler des salaires. Un policier saoudien doit être déféré dans la journée au parquet de Saint-Malo à l'issue de sa garde à vue. Il a été arrêté samedi, accusé d'agression sexuelle sur l'employé d'un hôtel. Cet homme de 40 ans est en Bretagne pour intégrer une formation à l'école nationale de police de Saint-Malo. des missiles iraniens lancés sur la Syrie la nuit dernière. Une représaille de Téhéran après l'attaque contre un défilé militaire à Ahvaz la semaine dernière. Les gardiens de la révolution iranien affirment que ce n'est qu'un petit coup avant, je cite, le châtiment véritable. Et puis les finales des Coupes d'Europe de rugby 2020 se dérouleront au stade Vélodrome à Marseille, annonce ce matin de l'EPCR qui organise les compétitions. Le stade avait déjà reçu la finale de la Challenge Cup en 2010.
France Info. On parle de cybercriminalité dans ce 12-14, toujours avec Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, Nicolas Arpagion, directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense, et puis avec le spécialiste nouvelles technologies de France Info, Jérôme Colombin. Alors on parlait de l'ancienne cybercriminalité, mais il y a également tout plein de nouvelles formes de cybercriminalité, avec pour but par exemple de... pratiquer la déstabilisation politique, Nicolas Arpagion.
En fait, c'est une guerre de l'information à l'échelle industrielle. La capacité à créer justement un climat particulier, une espèce de pollution informationnelle. Pourquoi ? Parce que les gens notamment se renseignent alors par les médias évidemment, mais aussi par les réseaux sociaux. Et donc, on a vu que l'information avait une valeur. On a parlé tout à l'heure des données personnelles, des secrets de fabrication, des données financières, mais également, effectivement, la nature, la couleur de cette information pourra être orientée à l'occasion de campagne de dénigrement ou au contraire visant à enjoliver telle ou telle situation. Et ça, on l'a vu notamment avec le phénomène, alors fake news, résumé sous ce terme un peu hâtif, un peu rapide, mais qui est effectivement en plus une des composantes de la cyber-insécurité. Notamment, on l'a vu en communication financière avec des entreprises qui ont vu leur cours de bourse malmené suite à des informations mensongères, mais qui avaient l'apparence, la saveur de la vérité de par les fraudes sur l'émetteur et la manière dont elles étaient formulées qui pouvaient inspirer confiance aux acteurs des marchés financiers.
Alors, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais on pourrait par exemple parler du piratage du fichier d'En Marche durant la présidentielle. Guillaume Poupard, est-ce que la France est bien protégée contre ce type d'attaque mieux que les autres ?
Alors, j'ai du mal à être optimiste, évidemment, quand on voit tout ce qu'on voit. Mais de fait, la France fait partie du peloton de tête. Des pays qui sont souverains, qui sont capables d'assurer leur cybersécurité. On a surtout en France, par rapport à d'autres, je compare, un vrai travail collectif avec les différentes administrations, les différents ministères. Si c'était faux, j'en parlerai pas, évidemment, mais en l'occurrence, c'est vrai. On a le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui fait un très gros travail, justement, pour dire que la sécurité, ça fait partie du numérique de manière totalement intégrante. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, on a surtout une relation entre les acteurs publics et les acteurs privés, qui est réellement une relation de confiance. Donc, une fois que tout ce pacte, toute cette équipe France est formée, l'idée, c'est de voir comment faire pour agir. Et là, ça veut dire que chacun à son niveau, les entreprises, l'administration, les agents, les individus, les collaborateurs ont tous un rôle à jouer. Ce qui me fait dire souvent un truc un peu facile, qui est de dire que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Mais c'est bien
ça,
la réalité.
C'est un bon slogan, ça, oui.
Ça se retient bien et surtout, c'est vrai.
Jérôme Colombin.
Mais Guillaume Poupard, est-ce que vous avez aujourd'hui suffisamment de talents, les moyens de payer ces talents, d'éviter qu'ils partent à l'étranger, suffisamment de ressources ?
On a la chance d'avoir des recrutements de très, très grande qualité, avec des gens qui sont passionnés, des jeunes qui sortent d'école, qui ont envie de venir apprendre, qui viennent chez nous, qui sont extrêmement engagés et qui ont de vraies valeurs. Donc, ça,
Nicolas Arpagion vous regarde en minaudant.
C'est une mauvaise interprétation. Au contraire, j'écoutais avec intérêt. Et je pensais à un complément qui est, il évoquait des profils de haute qualité. La problématique, c'est le nombre. C'est également, on n'a pas de doute sur les qualités des formations. C'est juste sur les cohortes, le nombre de diplômés.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Quoi.
Non, alors l'ANSSI, enfin, je ne vais pas parler au nom de son directeur
mais
général,
mais
a des ressources,
a des
moyens. Il a des ressources. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces candidats sont recrutés par tout le monde. C'est-à-dire que les administrations civiles de l'État les recherchent, les administrations militaires de l'État les recherchent, les fournisseurs tels que Orange recrutent ce type de personnel et également les entreprises utilisatrices. Donc vous voyez qu'on a un nécessaire, on a parlé technique, on a parlé criminalité, il faut parler formation, il faut parler cursus académique, il faut parler formation continue également pour faire venir des gens qui ont une compétence numérique au métier de la cyber, mais également faire en sorte qu'il n'y ait plus un diplômé en informatique qui n'ait pas une compétence et surtout un a priori, et là dans la dimension positive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on ne fait plus de numérique sans intégrer une brique de sécurité. On ne reporte pas ça en bout de chaîne ou sur l'utilisateur final.
Accessoirement, c'est un bassin d'emploi actuel et futur extraordinaire.
Oui, parce qu'on embauche énormément dans ce secteur pour combattre la cybercriminalité. Guillaume Poupard, est-ce que c'est bien du registre de l'État de protéger finalement des particuliers ou des entreprises françaises contre la cybercriminalité? Après tout, pourriez-vous dire qu'ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls? Chez Orange, ils ont bien les moyens de s'offrir le service de Nicolas Arpagian.
Exactement. Non, le premier rôle de l'État, c'est probablement de protéger ses concitoyens. Donc l'État prend vraiment la cybersécurité comme une priorité quasiment absolue, raison pour laquelle nous avons la chance d'avoir des moyens, moyens qui sont nécessaires pour protéger les grandes entreprises, les grandes administrations. Mais l'État ne fera pas tout, ça c'est une évidence. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'ensemble des entreprises, l'ensemble des entités se prennent en main, se posent les bonnes questions en termes de cybersécurité, mais également que l'ensemble des agents qui constituent, des collaborateurs qui constituent ces entités, puissent vraiment jouer leur rôle. Et pour jouer leur rôle, ça veut dire appliquer des règles relativement simples. On ne fait pas n'importe quoi avec ses téléphones, ses clés USB, ses mots de passe. Il faut une démarche relativement, je parle souvent de saine paranoïa, il faut être prudent, il ne faut pas être traumatisé. Hein. Bien évidemment, le numérique, c'est l'avenir, donc on va continuer à y aller. Mais il faut vraiment penser à ça et toujours garder une sorte d'esprit critique pour se demander, voilà, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est normal? Tel événement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est naturel ou bien est-ce que je dois au contraire alerter les différents services informatiques de manière à réagir au plus tôt, à détecter au plus tôt les vrais problèmes?
Nicolas Arpagian, vous avez besoin, vous, chez Orange, de l'ANSSI, vous avez besoin de la tutelle publique?
Alors, on a besoin, pourquoi? Parce que alors, je rappelle quand même l'ordonnance de 1959 qui parle de sécurité économique dans les éléments de la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de sécurité nationale. S'il n'y a pas de sécurité économique, ça reste éminemment lié. On a besoin de l'État, oui, qui édicte des règles. Pourquoi? Parce que on va s'apercevoir notamment que les entreprises pourraient être un peu réticentes. Vous savez, elles sont convaincues de l'importance du sujet, mais le passage à l'acte, le passage aux investissements, le passage aux procédures, s'il n'y avait pas une contrainte réglementaire. Et il faut être très clair, le règlement général sur la protection des données, qui est rentré en vigueur au mois de mai 2018, a fixé des amendes. Alors évidemment, c'est un mode de pédagogie assez primaire, mais c'est un élément où les entreprises peuvent commencer à mettre un prix sur leur manquement en cybersécurité. Et donc, là, l'État a un rôle vertueux dans le sens où il a impose des réglementations, il impose un tempo, un agenda, c'est-à-dire à telle date, il faudrait avoir tel niveau. Après, la logique partenariale qu'évoquait justement Guillaume Poupard est intéressante parce qu'elle n'est pas uniquement dans une sanction purement presque scolaire, on est bien dans une construction. Pourquoi? Parce que, bah, d'ailleurs, on le voit bien avec la réglementation qu'édicte l'ANSSI, elle est en cours d'écriture de manière continue, adaptée aux technologies.
Eh bien, merci à vous trois, messieurs. Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense, et je rappelle ce que sais-je au PUF sur la cybersécurité que vous avez publié, et puis Jérôme Colombin, monsieur Nouvelle Technologie de France Info. Après avoir parlé du cloud plus prosaïquement, on va parler des nuages.